Nous continuons notre cours en prenant les quatre adjectifs, les quatre notes, les unes après les autres. Contrairement à ce que je vous ai annoncé plus haut, je vais le faire en deux fois, pour des raisons de poids de l'enregistrement. Ces quatre notes, une, sainte, catholique et apostolique, l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité, sont en fait indissociables les unes des autres. Il existe une sorte de présence et d'intériorité mutuelle des unes dans les autres. Et il est difficile de parler de l'une sans parler des autres. Mais pour des besoins de cours, on est obligé de scinder et de séparer ces quatre notes. Commençons dans l'ordre du symbole de Nicée-Constantinople par l'unité. C'est la première qualité de l'Église. Si nous avons un regard sur l'état de l'Église sur la terre aujourd'hui, nous ne pouvons réagir qu'avec une immense tristesse. Nous sommes bien loin de ce que nous affirmons. Le drame des divisions est constitutif de l'Église quasiment depuis le commencement. Et depuis les réformes du XVIe siècle, celles-ci ont pris des proportions absolument insoutenables. En fait, il nous faut reconnaître que l'unité de l'Église n'est pas une qualité de l'Église terrestre, de celle qui voyage péniblement sur la terre, de celle que nous connaissons, mais que c'est une qualité qui a sa fondation en Dieu même. Et il nous faut inverser notre façon de penser, retrouver le fondement de l'unité en Dieu pour peut-être avancer vers une unité de l'Église terrestre de la bonne façon. En tout cas, nous situer, nous, individuellement, dans cette unité donnée et voulue par Dieu, nous permettra de mieux porter nos divisions, dont nous sommes parfois, malheureusement, les complices bien involontaires et dont nous sommes les héritiers. Lorsqu'on parle d'unité, d'église une, dans le credo, qu'on utilise l'adjectif, on a en fait deux mots qui peuvent être derrière. L'église est une. Ça veut dire qu'il y a une seule Église. On parle de l'unicité de l'Église. L'Église est une. Ça veut dire que l'Église vit unie parce qu'elle elle est dans l'unité. Donc, deux substantifs, unité et unicité, derrière l'adjectif « une ». L'unicité de l'Église, elle est liée au fait qu'il y a un seul Dieu et une seule œuvre de salut de ce Dieu trinitaire. L'unique Église s'inscrit dans le mouvement d'ensemble de l'histoire du salut, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle correspond à la foi biblique qui confesse le Dieu un, unique et totalement singulier. Elle correspond à la confession de l'unique Seigneur, médiateur et sauveur, dans lequel nous sommes baptisés dans l'unique esprit pour faire un unique corps du Christ. C'est le Dieu unique qui rassemble son peuple et qui l'unit en Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. Jésus est l'unique pasteur qui connaît ses brebis et les rassemble dans son unique troupeau. En son fond, l'Église est une dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. La qualité de son unité est à fonder dans l'unité de la Trinité. Le principe de l'unité est avant tout théologique. C'est le principe de l'unité de la Trinité dans lequel les personnes, avec toutes leurs différences, le Père, le Fils, l'Esprit, sont un. C'est extrêmement important de se rendre compte que cette unité provient de l'unité de la Trinité, parce que cette unité de la Trinité
n'exclut pas la diversité des personnes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Et dans l'Église, il y a donc de la place pour de la diversité, même dans l'unité. On a eu trop souvent tendance, dans le catholicisme romain, surtout depuis la Réforme, à penser l'unité comme une façon de voir absolument, je ne veux voir qu'une seule tête, une homogénéité des façons de se comporter. Cette unité, cette unicité de l'Église, elle en trouve son source dans le Nouveau Testament, qui a une grande perception de l'unicité de l'Église, même lorsqu'il n'en parle pas. Lorsque Paul parle d'Église au pluriel, il entend par là des églises particulières, localisées géographiquement, qui sont chaque fois, dans le lieu où elles sont, l'unique Église de Jésus-Christ, et la rendent présente. Chacune de ces églises locales, de ces églises particulières, n'est pas une partie de l'Église entière, mais elle est l'Église entière en ce temps et en ce lieu, même si chacune en particulier ne peut prétendre être toute l'Église. On a donc une pluralité d'Églises, une diversité d'Églises, au sein de l'Église une et unique, dans laquelle de nombreuses Églises particulières sont chacune d'elles l'unique Église de Dieu en un lieu, et ces églises particulières sont liées entre elles dans la communion de l'unique Seigneur dans l'Esprit. Cette unité n'exclut donc pas la diversité, car l'unité intérieure de l'Église ne doit pas être comprise comme unité à faire, mais comme un don à accueillir. Vous le savez, ce n'est pas forcément plus facile. Jésus-Christ n'a pas donné l'ordre que l'Église s'unisse, il l'a unie une seule fois et en un seul esprit, il en a fait un seul corps. L'unité interne de l'Église est fondée dans l'unique Esprit Saint, par l'unique baptême et par la participation à l'unique pain eucharistique. C'est une unité dans l'amour à l'image de la Trinité Sainte, ce qui signifie qu'elle ne signifie pas une uniformité. Si Dieu est un et trine, c'est bien que la diversité peut exercer dans l'unité. L'unité de l'Église inclut donc la diversité. Comme l'unique évangile nous est transmis sous la forme de quatre évangiles. Dans la communion ecclésiale, il peut exister des églises particulières qui jouissent de leur propre tradition. C'est même vrai dans l'Église catholique romaine, nous le verrons plus tard. L'unité des chrétiens est nécessaire pour qu'en eux soit révélé au monde l'amour du Père manifesté par le don de son Fils unique. L'unité et l'unicité de Dieu, le Sauveur un et unique, et l'unité de l'Église qui en découle sont un signe et un chemin pour l'unité de l'humanité. Par l'unique Sauveur et Médiateur, Dieu veut réunir à nouveau l'humanité, devenue étrangère à Dieu, et les hommes devenus étrangers les uns aux autres. C'est cela que nous disons quand nous affirmons notre foi dans l'Église une. C'est une parole liturgique. Il ne s'agit pas d'affirmer contre toute évidence une réalité déjà acquise, mais d'accueillir le don de Dieu et de recevoir la mission qui en découle. Parlons maintenant d'Église sainte, peut-être l'attribut le plus choquant, tellement l'Église est pleine de défauts, de péchés. En fait, la sainteté est un attribut de Dieu. C'est pourquoi nous lui associons cette notion de perfection. Mais Dieu transmet cette sainteté inaccessible à ses créatures qui l'accueillent comme elles peuvent. Revenons d'abord sur la formulation du credo. Cette Église sainte est très ancienne. Excusez-moi, il y a eu un petit loupé dans l'enregistrement. Le terme « saint » est attribué à l'Église très tôt dans son histoire, dès les écrits du Nouveau Testament. Le symbole des apôtres, le credo de Nicée-Constantinople, ne retient que deux des quatre adjectifs. Il parle de la Sainte Église catholique. En disant « là », il parle de l'unicité. Mais quand il dit la formulation de l'Église sainte, il parle, il dit « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Nous sommes dans la profusion de sainteté. La Sainte Église catholique est entourée de l'Esprit Saint, de la communion des saints. L'Église est sainte parce que Dieu, dans et par le Christ, se manifeste à elle comme saint. La sainteté ne sépare pas l'Église et les chrétiens du reste de l'humanité pécheresse. Elle lui est donnée par Dieu. » Il nous faut comprendre la différence entre la notion de sainteté et la notion de sacré, qui est celle qui provient du monde païen. Le sacré, ce sont des choses difficiles, qu'il nous faut séparer, qui font peur, et on ne peut y accéder que par une certaine pureté rituelle. Le sacré est chargé de dynamisme. Il provoque un sentiment mêlé d'effroi et de fascination. Il fait prendre conscience à l'homme de sa petitesse. Le sacré fait tellement peur qu'au sein des sociétés traditionnelles, les prêtres sont mis à part pour assurer le lien entre les hommes ordinaires et le sacré, car c'est une tâche difficile et dangereuse. Dès la Bible, le saint et le sacré se mêlent. La sainteté, c'est l'attribut même de Dieu. Dieu se montre saint au Sinaï, mais surtout par sa capacité à bénir, aimer et pardonner. Il partage sa sainteté. La sainteté de Dieu inclut tout ce que Dieu possède de riche, de vie, de puissance, de bonté. La sainteté caractérise Dieu lui-même. Reconnaître que Dieu est saint, c'est le chanter comme les anges sans fin. Saint, saint, saint le Seigneur. Craindre Dieu, c'est-à-dire avoir une juste position devant lui, c'est le sanctifier. Ce n'est pas une position de peur, c'est une position d'accueil de ce don de la sainteté qu'il nous fait. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu communique à son peuple sa sainteté. Israël devient le domaine particulier de Dieu. Et ceci se prolonge dans le Nouveau Testament. La sainteté du Christ est intimement liée à sa filiation divine et à la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Dans l'annonce faite à Marie, l'Esprit dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Cette sainteté se manifeste par la totale obéissance du Fils et il nous communique cette sainteté par l'Esprit. Je vous rappelle l'adresse de la première épître de Paul aux Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les apôtres, par le baptême et par l'onction, les croyants sont sanctifiés, car le Christ, par le Christ, leur communique sa propre sainteté. C'est pourquoi les chrétiens méritent le nom de saints. Plus loin dans la lettre aux Éphésiens, l'attribut de sainteté est formellement attribué à l'Église. Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il a voulu la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave et cela par la parole. Il a voulu se la représenter à lui-même, splendide, sans tache ni défaut. Il a voulu son Église sainte, irréprochable. Il est clair dans le Nouveau Testament que la sainteté ne désigne pas une quelconque perfection morale, mais un appel de Dieu pour une vocation personnelle et communautaire qui est à la fois consécration et mission. L'Église primitive a parfaitement conscience que la sainteté ne relève pas de sa propre fidélité. Elle se comprend comme la communauté des saints dans le Christ, comme le peuple saint acquis par Dieu, et à ce titre radicalement différent du monde païen. L'Église primitive relie l'appel à la sainteté à la mission de témoin, quelque part à l'apostolicité. Dans le credo, notre foi s'adresse à l'Esprit Saint. C'est lui qui sanctifie l'Église. Il n'y a de saint que ce qui est sanctifié par Dieu. Si nous parlons d'histoire sainte, ce n'est pas à cause de la perfection de ses acteurs, mais à cause de la sainteté de Dieu qui sauve. La sainteté de l'Église ne se rapporte pas à la valeur des hommes qui la composent, mais à celle du Seigneur qui la fonde. On approche véritablement l'Église qu'à partir de ce qu'elle est pour Dieu. Un accord entre catholiques et luthériens prononce ainsi « Nous confessons unanimement avec le credo de l'Église ancienne que l'Église est sainte. Cette sainteté consiste essentiellement dans l'appartenance au Dieu un et trine, le seul saint dont elle provient et avec qui elle va. Cette sainteté de l'Église a pour conséquence la sainteté de ses membres, de tous ses membres. Mais la sainteté est non pas un acquis, mais une vocation à la suite du Christ, d'où nous est donnée toute sanctification.